En voiture, comme chaque mercredi à 21h pour une nouvelle livraison de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Deux invités aujourd'hui dans les studios pour nous présenter un livre de souvenirs, mais également un témoignage émouvant et parfois choquant sur le milieu hospitalier psychiatrique. Et les Lumières de l'asile, tel est le titre du livre écrit à quatre mains. Bonsoir Guy Morcelli, bonsoir Michel Abraham, merci à vous deux d'être venus ce soir, devant les micros de Radion.
Mais c'est un plaisir. Bonjour à tous et bonjour aux auditeurs.
Bonjour à vous aussi et bonjour à tous les auditeurs.
Dans la quatrième de couverture, vous présentez tous les deux comme issus de la campagne profonde et munis du seul certificat d'études primaires. Pourquoi cette présentation dans la simplicité et la modestie ?
Modestie, je ne sais pas. C'est presque de l'orgueil pour moi, pour ce qui me concerne, c'est de la fierté. Parce que en être arrivé où on en est arrivé par notre métier, par notre travail, avec à la base un petit certificat d'études, alors qu'aujourd'hui il faut avoir bac plus je ne sais combien pour exercer le métier d'infirmier ou d'infirmière. Il existe même des internes en médecine qui ont raté leur faculté et qui viennent retrouver les leurs à l'hôpital psychiatrique en qualité d'infirmier.
Donc tous deux, vous êtes maintenant à la retraite, vous vous êtes rencontrés sur votre lieu de travail à l'hôpital psychiatrique.
Oui, c'est tout à fait le hasard qui a fait que nous nous sommes rencontrés à l'hôpital psychiatrique lors de mes premiers pas, au moins, et j'ai été accueilli par monsieur Morcelli.
Alors tous les deux, donc effectivement, vous avez partagé cette expérience, cette profession, expérience difficile, enfin c'est pas une expérience, c'est une dure réalité, avec parfois des moments entrecoupés de franche camaraderie, mais il y a eu aussi des épisodes très difficiles, ce dont vous rendez compte dans votre livre, dont je rappelle le titre, « Les Lumières de l'asile ». Alors pourquoi avoir voulu ensemble rédiger ce livre? Guy Morcelli.
Alors ça, c'est un petit peu... C'est simple, tout à fait simple. Une simple rencontre, un jour autour d'un bon repas. Et puis on a raconté nos petites aventures à nos épouses, parce que c'était une des rares fois où on parlait de ça. Parce que, d'ailleurs, c'est dit dans le bouquin, il n'était pas fréquent qu'on raconte ce qui se passait à l'hôpital à qui que ce soit. Et tiens, ça serait bien qu'on se raconte ça, ça serait bien qu'on raconte nos aventures, qu'on dise ceci, qu'on dise cela. Et puis voilà, c'est parti. Et puis bon, Michel a commencé à poser des jalons, et puis moi j'ai continué avec mes aventures à moi, lui les siennes, puis ça a fait un livre que d'aucuns trouvent très bien.
Michel Abraham, vous ressentiez le besoin de mettre sur le papier ces souvenirs de l'asile, de ce qu'on appelle familièrement l'asile, mais qui, bon, aujourd'hui, on appelle cela hôpital psychiatrique, un peu par euphémisme.
Même plus maintenant, c'est un centre spécialisé en psychiatrie.
Ouais, ça. Oui, il y avait, pour ma part, très longtemps que je souhaitais mettre en évidence tout ce qu'on avait vécu, enfin tout au moins tout ce que j'avais vécu, j'avais reculé le plus loin possible, n'osant pas commencer, ne sachant pas comment commencer, et je voulais être aidé au moins par quelqu'un qui avait vécu les mêmes choses que moi, qui pouvait m'aider, et il s'est trouvé, comme le dit Guy, qu'on s'est trouvé à table en racontant notre vécu, et on s'est dit, pourquoi ne pas le mettre par écrit? Et c'est comme ça que l'histoire a démarré.
Alors, volonté de laisser une trace, volonté de partager des souvenirs, et puis le souci de rendre hommage, notamment, je vous cite, à ceux qui ont su nous enseigner le respect de l'humain au travers des cours qu'ils nous prodiguèrent. Vous étiez très attaché à cette volonté de rendre hommage aux maîtres, à ceux qui, sur le terrain, vous ont aidé à affronter une réalité souvent difficile, puisque vous ne touchiez pas de la matière, vous aviez affaire à l'humain, ce qui est le plus délicat. Michel Abraham.
Oui, il est vrai que l'hommage est aussi à rendre aux personnes, à notre famille, qui ont su, eux aussi, nous préparer à la vie, ce qui fait que c'est peut-être là aussi que le point de départ se fait. Et ensuite, la rencontre avec tous les gens qui nous ont enseigné, ou tout au moins une partie des gens qui nous ont donné ces cours pour nous enseigner le respect de l'humain, je crois que c'est ça qu'on a voulu dire dans le livre.
Guy Morcelli, oui, pour vous, l'éthique, le respect de la personne humaine, c'était très important.
Voilà. Vous avez sûrement encore différentes sortes d'individus qui entrent dans cet hôpital. Vous avez ceux, d'ailleurs on le dit aussi dans le bouquin, qui venaient pour la paye. On était fonctionnaire, on avait la paye d'assuré, le reste, on s'en fout. Il y avait ceux qui venaient avec la volonté d'arriver, c'est-à-dire de devenir supérieur, de devenir des chefs, de fonctionner. Bien. Ceci, et puis il y avait ceux qui croyaient en ce qu'ils faisaient. Voilà, tout simplement, ils aimaient l'humain, comme vous le dites, ils aimaient le contact, ils ne faisaient pas de distinguo, comme on l'a dit tout à l'heure, hors antenne, il n'y avait pas, ils ne considéraient pas que le malade mental était un fou, ils considéraient comme malade. Ils avaient déjà ça d'avance sur les anciens. Bon, ceci étant, on a eu la chance, je parle un peu pour moi aussi, d'avoir des maîtres qui nous ont appris, qui nous ont enseigné, qui nous ont appris l'humain, qui nous ont expliqué ce qu'était un individu et comment on devait l'approcher, comment on devait l'appréhender. Et ça, c'est quelque chose d'important et qui mérite qu'on leur tire notre chapeau.
Je suis dans le noir extrême, j'ai plus de goût pour le chocolat. La femme que j'aime, peu à peu s'en va de moi. Elle en aime un autre, 99 fois plus fort que moi. C'est un bon apôtre, je sens que je ne fais pas le poids. Cacao, chocolat, une fois que tu le croques, t'en finis pas. Cacao, chocolat, et si tu craques, c'est pour des mois. Je lui envoie des pralines, exprès pour la Saint-Valentin. Dans un coffret corsage, mais c'est pour le balai de crin. J'essaie toute la gamme, les chocolats les plus fins. Elle est insensible, la mignonnette ne veut rien. Cacao, chocolat, une fois que tu le croques, t'en finis pas. Cacao, chocolat, et si tu craques, c'est pour des mois. Même une petite bouchée est rejetée d'un revers de la main. Je n'ai plus du tout la côte, alors hélas me glisse des mains. Cette fois je passe à la trappe, je n'ai plus le moindre argument. C'est un vrai massacre, chaque fois que je parle elle dit que je mens. Cacao, chocolat, une fois que tu croques, t'en finis pas. Cacao, chocolat, et si tu craques, c'est pour des mois. Quoi est-ce que je peux faire? Je donne vraiment ma langue au chat. Si c'est comme ça, je vais me faire ermite au fond du Sahara. Jamais on ne mange le moindre bâton de chocolat, la moindre ganache, ni le moindre giandouja. cacao, chocolat, une fois que tu le croques, t'en finis pas. Cacao, chocolat, et si tu craques, c'est pour des mois. Pourtant, entre chienne et louve, je penserai toujours à toi, au sablé pur beurre, aux figurines de chocolat. Et quand ce sera l'heure du thé Vasco des gamins, je me souviendrai des truffes, des orangettes et du nougat. Cacao, chocolat, une fois que tu le croques, t'en finis pas. Cacao, chocolat, et si tu craques, c'est pour des mois. C'est un dur métier que l'exil, loin des si bons bonbons liqueurs, sans ballotin ni pâte à tartine, sans mendiant, sans toutes ses douceurs. Bien sûr, c'est aussi la grande vie, les figues, les dattes et les kiwis, dans les palmeraies infinies du désert du Kalahari. Plus de cacao, plus de chocolat, si t'es en manque, mange l'ananas. Plus de cacao, plus de chocolat, la manque c'est bon pour ce que tu as. La manque c'est bon pour ce que tu as. La manque c'est bon pour ce que tu as.
Et puis j'aimerais qu'on revienne, ou qu'on s'arrête sur le titre, qui est un clin d'œil, les lumières de l'asile. Guy Morcelli ?
Des lumières, on le dit aussi en exergue. Vous avez des gens qui se prennent pour des lumières, hein, qui sont très importants, qui se croient très importants.
Dans le monde médical ?
N'importe où.
N'importe où.
Un peu partout. Et vous avez ceux aussi qui sont complètement nuls, mais péjorativement, on va les appeler des lumières. On va dire, oh, celui-là, c'est une lumière.
Par ironie.
Oh, c'est une, voilà, par ironie. C'est une sacrée lumière. Bon, ben voilà. Hein, donc les lumières, on a le néon et puis la bougie.
Et puis, bien sûr, les lumières de l'asile rappellent le titre d'un film de Chaplin.
Évidemment, évidemment.
Hein, cette paronomase, cette proximité phonétique, voilà. Les lumières de l'asile, les lumières de la ville. Alors avec vous, grâce à votre livre, on rentre dans l'univers de l'hôpital psychiatrique, avec toute cette série de noms de médicaments, j'en ai relevé quelques-uns, le chloral, le véronal, le garnénal, le cardiazol, les neuroleptiques à foison, les électrochocs dont vous parlez. Guy Morcelli, un commentaire ?
Les électrochocs, ben, je pense que Michel serait plus en mesure que moi de rappeler la petite anecdote de l'infirmier qui se...
Oui, à une certaine époque... Les traitements n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. On n'avait que ces traitements-là sous la main, c'est-à-dire les électrochocs qui guérissaient à peu près tout. Et bon, il n'y avait que ça. Il fallait bien qu'on s'en serve. Alors évidemment, il y avait des électrochocs à longueur de journée presque. On partait avec la petite valise à électrochocs. On en faisait un, on en faisait deux, on en faisait trois, quatre, on en faisait six. Six de suite. Alors on guérissait soit les déprimés, soit on en a fait aux schizophrènes, on en a fait aux gens qui étaient caractériels. C'était une période d'essai. Et c'était une période très difficile à vivre pour nous parce que c'était barbare. C'était une méthode barbare. Une méthode qui est encore employée un peu aujourd'hui, très peu. J'en parlais l'autre jour à mon médecin qui m'a dit « Je suis étonné que vous parliez de ça comme ça ». Je dis « Oui, effectivement. Effectivement, on a travaillé avec ça. » Sinon, les noms que vous avez cités plus tôt, c'était des produits qui étaient aussi à l'essai, qui n'ont pas donné des résultats très probants.
Donc vous vous sentiez souvent très impuissant par rapport au malaise, au malheur de ces malades. Vous en prenez bien conscience. Dans le livre, vous écrivez que vous essayez de rendre les malades non pas heureux, mais moins malheureux.
Oui. Et ce qui se passe, pour entrer en droit fil avec ce que dit mon collègue, les électrochocs, et on verra plus tard l'insulinothérapie, etc., etc., c'était surtout au départ... pour nous, c'était des soins, mais pour ceux qui le pratiquaient, c'était plus expérimental. Il rendait des rapports au laboratoire. Donc il devait dire que tel ou tel médicament avait tel et tel effet sur tel ou tel malade, telle maladie. Et on essayait tout. Les maniaco-dépressifs, donc les gens agités qui faisaient ce qu'on appelait des clochers, à savoir, ils étaient maniaques et ça montait dans l'exacerbation maximale. Et puis... après, ils retombaient en dépression maximale aussi. Et les électrochocs étaient mangés, si j'ose dire, à toutes les sauces.
Ces gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Lorette souriait. Et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient quand elle embrassait. C'était bien chez Lorette quand on faisait la fête. Elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette quand on était fauchés. Afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Lorette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Lorette. On y retournera pour ne pas l'oublier, Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette. Histoire du passé chez Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Lorette.
Retour avec nos deux invités aujourd'hui dans Wagon Livre, Michel Abraham et Guy Morcelli, à l'occasion de la sortie de leur livre « Les Lumières de l'Asile », livre auto-édité paru au printemps de cette année 2010, un livre de souvenirs sur l'univers psychiatrique. Et venons-en, justement, parlons de l'humain, puisque c'est au cœur de vos écrits, le respect de l'humain, cette approche de l'être humain dans la souffrance et dans la maladie mentale. Je vous cite, vous l'écrivez page 56, vous parlez de ces gosses au regard souvent absent qui savent si bien vous récompenser d'un sourire lorsque vous leur parlez en essuyant leurs lèvres, en les faisant boire à toutes petites goulées et manger en leur laissant le temps de déglutir. On finit par les aimer et j'irai jusqu'à dire s'intégrer à leur monde. Guy Morcelli.
Oui, tout à fait. Ce sont des enfants, d'aucuns les appelaient, simplement pour un rappel pour ceux qui écoutent cette émission, certains les appelaient des légumes. C'est-à-dire, ils ne bougeaient pas dans leur lit, leur seule expression c'était des grands cris. Et alors, il fallait arriver à avoir une oreille presque animale, reconnaître le cri de douleur. Vous savez, comme un vétérinaire va s'occuper d'un animal, là, on avait presque la même sensation. Le malade qui criait parce qu'il avait mal, le malade qui criait parce qu'il était content, le malade qui, quand il vous voyait, il vous faisait des grandes risettes, d'où la sensation de se sentir très utile, de dire « Ah !» Il a souri, il m'a vu, je suis content. Et puis, évidemment, il y avait aussi, là je ne peux pas faire autrement que de parler des infirmiers pervers, hein, qui les tapaient parce qu'ils criaient, on ne sait pas pourquoi. Mais si, mais lui il savait, le malade, pourquoi. À nous de chercher, on était payés pour ça, on était là pour ça.
Hein. Avez-vous conscience d'avoir couché sur le papier des souvenirs qui, bien souvent, n'honorent pas le travail
exact.
Des infirmiers psychiatriques. Vous en êtes conscient.
Tout à fait. Exact. Tout à fait. Moi, je signe des deux mains. Hein. Mm. Ah oui. Je cherche celui qui va me mettre à défaut. Hein.
Et il y a l'épisode, vous racontez, de ce malade qui est attaché à un radiateur.
Oui. Bien sûr.
Qui est battu,
oui.
Alors tantôt par certains de vos collègues,
oui.
Malheureusement,
et, oui.
et battu aussi par d'autres malades.
Ah ben oui, parce que les infirmiers, les gros bras, avaient leur milice derrière eux. Des fois, l'infirmier commençait la bagarre et ses petits chiens de garde finissaient le boulot. Hein, vous savez, c'est comme dans les meutes, hein. Vous avez le chef loup, le chef de meute, qui commence à manger les bons morceaux, et puis ma foi, les autres, ils mangent le reste. Et bien là, c'était la tabassée, comme ça.
Si je tente une comparaison avec l'univers carcéral, vous êtes d'accord ou vous désapprouvez cette...
Je ne peux pas vous dire, pour ma part, je ne peux pas vous répondre. Peut-être que mon collègue le fera. Moi, je n'ai jamais vécu le monde carcéral, donc je ne peux pas dire.
Mais j'entends, dans la mesure où il y a une hiérarchie, où il y a des infirmiers qui, effectivement, prennent soin de malades qui sont enfermés, qui n'ont pas le droit de quitter les lieux.
Mm-hmm,
c'est l'enfermement.
Oui, oui,
peut-être
oui.
Aussi dans la tête, mais l'enfermement physique, dans l'espace
tout à fait.
De l'hôpital psychiatrique.
Tout à fait.
C'est pour ça que je me permettais cette comparaison audacieuse ou erronée avec la prison. Je vous pose la question, tout simplement. Hein. Je
n'affirme rien. Eu égard à ce qu'on a pu en voir... à droite ou à gauche, soit par des films, soit par des reportages, il est vrai qu'il y a des comparaisons.
Oui, c'est difficile aussi de dire que ces gens dont on vient de parler, auxquels on donnait à manger, qui nous apportaient
toilette,
un sourire, qu'on faisait la toilette, si on n'avait pas été là, ces gens étaient voués à la mort. Heureusement qu'on était là. On ne pouvait pas faire autrement que te dire si on ne leur donne pas, si on ne leur apporte pas le nécessaire, ces gens-là mourraient. Mais d'autres avant nous y étaient passés. Hein, nous n'étions pas les premiers.
Pour une autre sirène,
elle s'en fout. Elle s'en fout. Et ses yeux sur papier glacé, c'est pas elle. Et ce qui éblouit sa lumière, qui rêve de respirer son air, séducteur au regard de presse, de Roméo, si elle Juliette. Elle s'en fout, elle s'en fout. L'amour de sa vie l'a trahi, l'a trop prise pour une conne. Elle s'en fout, elle s'en fout. Marre de ce bonheur qui la fuit, marre des hommes. Rien qu'une petite fille trop belle dans quelques palaces, hôtels. Et les mots d'amour de ces miroirs, elle n'y croit plus du tout. Elle s'en fout. L'amour de sa vie l'a laissé pour une autre sirène. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Et ses yeux sur papier glacé, c'est pas elle. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Sa vie l'a trahi, l'a trop prise pour une conne. Elle s'en fout, elle s'en fout. Marre de ce bonheur qui la fuit, marre des hommes. Elle s'en fout.
Univers difficile où l'hygiène, vous n'avez pas toujours travaillé dans les meilleures conditions d'hygiène, notamment au moment du change des pansements, au moment de la toilette, les draps souillés, le soin des escarres. Vous travaillez à l'époque, alors on est dans les années 70, vous travaillez dans des conditions qui semblent un peu précaires, ou archaïques en tout cas.
Archaïques, précaires, on peut mettre les deux. On peut mettre les deux, on peut les additionner. On n'avait pas de produits antiseptiques comme on a maintenant à foison. On faisait au mieux, on essayait au mieux de se laver les mains. Il y avait aussi un petit peu de l'alcool à 90, qui n'était pas l'alcool modifié qu'on a aujourd'hui. Donc on essayait de faire au mieux. Et j'ai assez rarement vu d'infections causées par une négligence infirmière. C'était quand même des soins qui étaient, pour notre part, appropriés. Je sais pas ce que...
Au niveau des soins physiques, on apportait plus de soins aux soins pratiqués sur le malade qu'à nous. Le malade, on faisait tout pour qu'il soit bien soigné. Et en règle générale, ça, tous ceux qui faisaient des soins, même les infirmiers un petit peu médiocres par ailleurs, dans leur comportement imbécile, là, ils apportaient quand même beaucoup de soins, aux soins, excusez-le. Mais pour nous, on allait se laver les mains, c'était fini. Il y a l'alcool à 90 non modifié, comme dit mon collègue, servait plus... pour certains, remplir leur escarcelle ou faire le pastis de l'infirmier.
Alors, puisque vous évoquez le pastis de l'infirmier, Guy Morcelli, vous êtes contraint maintenant d'expliquer ce qu'est ce pastis de l'infirmier que j'ai découvert. Voilà un subtil cocktail, détonnant, explosif.
Ah, explosif.
Mais que vos collègues buvaient.
Ah oui. C'était simplement de l'élixir parégorique, hein, qui est censé traiter les maladies intestinales.
Et, un petit peu d'alcool à 90.
Une
petite goutte d'eau comme un analysé.
Comme un pastis.
Voilà,
tout simplement. Et à 11h30, c'est juste après le change d'avant-midi, c'était le pastis de l'infirmier.
Alors, on reviendra sur l'alcoolisme qui est présent chez les collègues infirmiers, mais chez des médecins, des grandes figures. Qui se prétendaient être de grands médecins. J'aimerais qu'on s'arrête encore un peu sur la violence, parce que c'est un univers tout de même dangereux.
Oui.
Quand on accompagne un malade, il est des précautions à prendre, notamment quand on change de pièce. Michel Abraham.
Oui, la violence, elle était présente en permanence. Il fallait, dans certains services, pas dans tous, il y a des services de grabataire, par exemple, où la violence n'existait pas. Ils étaient inertes, on ne pouvait pas attendre de la violence de ces gens-là. Mais il y avait d'autres services, quand même, qui pour lesquels il fallait faire très attention. Ça pouvait vous arriver dans le dos, comme ça, brutalement, sans que vous vous en doutiez. Donc il fallait être toujours sur ses gardes. Ce que nous faisions au maximum, mais il arrivait parfois que cela arrive. C'était des coups, c'était des crachats, c'était des insultes, c'était des menaces de mort, c'était toutes ces choses-là qui étaient le quotidien dans certains services, j'ai bien dit.
Il existait d'ailleurs dans un service comme ça, un gardien de cour. Tout bêtement, un gars qui gardait les malades dans la cour. Et il était censé regarder quand on allait ouvrir une porte, parce que tout était fermé à clé. Nous, on était pire que Saint-Pierre. Hein, des clés, il y en avait. Hein, il y avait vraiment le trousseau. Hein. Et donc, quand on allait ouvrir la porte pour un médecin qu'on avait appelé, pour un collègue, pour n'importe qui venait, un malade qui rentrait de permission, parce que ça existait aussi, ça, on pourra en parler. Et donc, lui, le gardien de cour était censé regarder s'il y avait des mouvements pour taper justement dans le dos de celui qui allait ouvrir les portes. Il était censé, il n'était pas censé toujours voir. Hein, parce que bon, quand il était parti à plaisanter avec les malades, il n'était pas obligé de voir.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous, Lise des Lucs, psy? Attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous, Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue,
accroché à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la clé. Peuplé de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplé de lumière et peuplé de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous, Lise et Luc, Sylvia, attendez-moi.
Nous avons évoqué les aspects les plus lourds, les difficultés, les conditions de travail, le danger, les conditions d'hygiène. J'aimerais aussi maintenant que nous nous arrêtions sur un aspect très plaisant de votre livre, parmi d'autres, ce sont les passages attendrissants où l'humour est bien présent. Alors, on a parlé du pastis de l'infirmier. Et puis, il faut reconnaître que dans cet univers, mais c'est peut-être aussi une façon de le supporter, on boit énormément, plus que de raison. Et il y a une savoureuse anecdote qui est relatée dans le livre, c'est celle de ce médecin, le médecin de l'hôpital psychiatrique, qui donc va réaliser un fond de l'œil auprès d'un patient. Et là, je donne la parole à Michel Abraham.
Oui, ce n'était pas l'histoire d'un médecin de l'hôpital psychiatrique, c'était un médecin de ville qui venait régulièrement faire des fonds d'œil aux malades alcooliques pour savoir si nous pouvions commencer une cure de désintoxication totale. Et c'était un médecin bien connu sur la place d'Auxerre. Il aurait fallu le voir. Il arrivait toujours dans des moments difficiles à décrire. Il était souvent ivre et il venait souvent avec ses appareils et il passait de malade en malade. Et cette anecdote que nous racontons dans le livre est celle-ci. Il avait, je crois, vu trois patients et il arrive sur ce patient justement qui avait un œil de verre, nous le savions, et il examine ce patient dès les yeux. Bon, il n'y a pas de problème, celui-là, pas de problème, vous pouvez commencer la cure, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il avait fait un fond d'œil sur un œil de verre.
Très fort.
Ah, oui, ça c'est une anecdote savoureuse.
Ça rejoint le tragicomique quand même.
Mmh. Oui.
Ça rejoint le tragicomique parce que il y a quand même un... Ben vous savez, ça, je racontais tout à l'heure aussi l'histoire de ce docteur. J'étais dans un service un dimanche et voilà qu'un de nos malades passe l'arme à gauche, comme on disait. Et bon, il faut que... Pour pouvoir emmener le malade à la morgue, il nous faut un certificat de décès rempli, dûment signé par l'interne de garde, le médecin de garde, l'interne de garde. Donc on appelle notre brave médecin, et c'était un ancien cardiologue qui avait dû s'arrêter parce qu'il était très fragile physiquement, et on verra après si le mental a suivi, parce qu'il était devenu interne à l'hôpital psychiatrique où nous travaillions. Et donc il vient, qu'est-ce qui se passe? Il était pyrénéen, il parlait comme ça, il dit qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, docteur, le malade intel, il semblerait que ce soit fini pour lui. Ah bon? Alors il vient, il l'examine, stéthoscope, il écoute le cœur, il prend le pouls, la respiration, et puis finalement, bon, il conclut, eh oui, il parlait toujours avec son accent, eh oui, il est bien mort, je pense pas qu'il simule, en tout cas, s'il simule, il simule bien. Alors, inutile de dire qu'avec le collègue, on s'est regardé, Et puis il est parti, les mains dans les poches, enfin les mains derrière le dos, comme ça, le stéto qui pendouillait devant lui. Alors on va à l'infirmerie, on remplit les papiers, et il met... qu'est-ce que je mets mort parasystolie paroxystique. Point.
Une lumière de l'asile.
Et une lumière de l'asile, vous voyez.
Parmi doigts. Alors, il y en a un qui simule pas, c'est un débile profond, c'est Napoléon. Ah, surnommé oui. Le petit âne, qui mérite qu'on s'y arrête. Mm. Michel Abraham, Guy Morcelli.
Oh, les deux, Guy à la Morcelli. Limite, chacun doit avoir son anecdote. Hein, mais il était très réputé pour ses saillies. Hein.
Oui, vous écrivez.
Il aurait dû
il s'appeler... Il est doté, pardonnez-moi Guy Morcelli, il est doté d'un attribut procréateur qui pourrait facilement concurrencer un âne au mieux de sa forme.
Oui,
lui,
oui.
Il est en forme en permanence, quel que soit celui ou celle...
Oui,
qui
oui.
se présente à lui.
Ah, mais tout à fait, oui, oui. oui.
Et sacré Napoléon.
Oui, oui, sacré Napoléon, oui, oui.
Alors, il y a aussi dans les collègues, vous avez eu un collègue cycliste, collègue homosexuel,
ah, oui.
qui alors donc pédalait beaucoup le week-end et le lundi réclamait quelques massages, Michel Abraham.
Oui, oui, ça c'était régulier, tous les lundis matins, la veille étant une course. Ah, il était assez bon coureur. Dans le sens propre du terme, je parle à moi. Je ne connaissais pas sur une autre, d'une autre façon. Tous les lundis matins, il avait mal dans les muscles, ce qui peut se comprendre. Il tournait toujours autour du pot, soit vers l'un, soit vers l'autre. Vous m'excuserez les mots, mais...
Et donc,
et donc, il demandait à l'un ou à l'autre de le masser. Il avait mal dans les chevilles, mais tu peux pas moi aussi me masser les cuisses, puis peut-être aussi un peu les fesses. J'ai mal partout, finalement, j'ai mal partout. Et il y prenait un plaisir fou, il en jouissait, si je peux dire.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Les guêpes et les nids des oiseaux, on allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé, on se baignait tout nu, tout noir avec les petites filles. Sulfuré. Les
naissance. La guerre, la société, ce n'est pas si mal. C'est normal, c'est le progrès.
Après le cyclisme, il y a aussi les matchs de football. Il y a un épisode savoureux aussi. Alors, qui s'en charge ? Guy Morcelli ?
Oh ben, si on veut, oui. Donc, on avait ce qu'on appelait le bureau des activités sociales. Le bureau des activités sociales, c'était un mouvement des membres du personnel et pour justement aider les malades. Alors on organisait des voyages, des excursions, etc., etc. Et puis voilà qu'un beau jour, il y a deux abrutis qui s'appellent Morcelli et Abraham et qui disent, ben, si on montait une... Parce qu'on faisait dans la cour, on jouait au ballon dans la cour du service, on pétait les vitres un petit peu partout des services voisins, on se faisait houspiller, parce que je suis poli, et puis le lendemain, quand les vitres avaient été remplacées, on recommençait, etc., etc., jusqu'au jour où l'économe me convoque et me dit, Morcelli, plutôt que de casser les vitres, parce que c'était lui l'économe, donc il fallait beaucoup économiser, hein, on a aussi des anecdotes avec les seringues, et qui nous disait, écoutez, vous ne pouvez pas les emmener jouer ailleurs. Alors moi j'avais toujours une réplique assez acerbe, je lui dis, quand j'aurai un terrain, je les emmènerai dessus. 3 jours après... un collègue dit ben moi je peux prêter mon terrain, et voilà comment on a créé l'abruti Abraham et l'abruti Morcelli ont créé l'équipe de foot de l'hôpital psychiatrique.
Et alors dans cette équipe il fallait stimuler certains malades un petit peu passifs.
Oui, on avait ce qu'on appelle toujours, mais avec une péjorativité plus importante, on avait ce qu'on appelle les schizophrènes. Schizophrène, ça veut dire coupé du monde. Hein, ou en grec ou en latin, je ne me souviens plus très bien des racines. Mais et on avait ces malades qui étaient ce qu'on appelait aussi des malades catatoniques, qui ne bougeaient pas. Rien à faire, ils avançaient à petits pas dans la cour, leurs bas de pantalon qui descendaient comme les jeunes de maintenant, vous savez, on a l'impression qu'ils ont fait pas mal de commissions dedans. Et donc leur chaussures, le bas de leur pantalon frottait sur le sol. Et bon. Et puis on avait le fameux donkey. On l'avait appelé donkey. Mais qui lui ne bougeait pas du tout. Et on avait décidé tous les deux qu'on voulait qu'il bouge. Donc on lui shootait dedans. On lui envoyait la balle. Et à chaque fois, on lui disait « Allez, donkey, shoot !» Donkey, shoot. Alors évidemment, ça faisait rire un petit peu tout le monde, tous ceux qui comprenaient. Et puis...
Il ne fallait pas avoir le cerf-volant.
Il ne fallait pas avoir le cerf-volant, tout à fait. Voilà. Ni transport au cerveau. Et donc, ce donkey, on lui envoie la balle, et à un moment, la balle lui arrive en pleine figure. Donkey, shoot ! Et il a shooté. Le nez plein de sang, ça dégoulinait par tous les bouts. Nous, on essayait de l'emmener à l'infirmerie pour le soigner, et puis surtout que ça ne se voie pas, que ça ne se sache pas, parce qu'autrement on nous aurait arrêté les trucs, et lui, il continuait de taper dans la balle. Et de ce jour, il a été invité à participer au match de foot, avec nous, aux entraînements. Et quelque part, ben, on a un petit peu aidé la science en le dégrippant.
et il faut dire aussi, excusez-moi, je vais même rajouter
Michel
un petit
Abraham.
Peu, cette histoire s'est continuée et s'est agrandi puisqu'on a formé une véritable équipe de foot avec laquelle on a été joué sur beaucoup de villes.
On avait des échanges avec d'autres hôpitaux psychiatriques qui eux-mêmes avaient créé leur...
On a même joué sur le terrain d'honneur de l'AGIA à l'époque.
Eh oui.
Alors c'est sur cette marque réjouissante et encourageante que nous allons nous quitter. Guy Morcelli, Michel Abraham, merci à vous
c'est
deux
nous, c'est nous.
D'être venus parce que Guy Morcelli, vous avez des attaches à Auxerre, mais vous êtes venu de Lorraine.
Je suis venu de Moselle, oui.
De Moselle, voilà. Pardon.
Voilà, et c'est bizarre parce que quand j'étais à l'école, mes collègues, mes écoliers, ils m'appelaient Moselle au lieu de Morcelli. Et vous voyez, j'ai atterri en Moselle.
Les Lumières de l'Asile, livre que donc vous avez écrit et dont vous nous avez donné aujourd'hui un aperçu, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes, de passages consternants et savoureux. Consternant, peut-être l'épisode, on va terminer avec celui-ci, parce que je tiens à ce qu'on en parle. Il m'a quand même beaucoup choqué, heurté. C'est cet épisode de la mort. Enfin, vous savez de quoi je veux parler.
De la morgue. Ah oui. Ah ben ça, oui.
Guy Morcelli.
Notre médecin-chef directeur, professeur à la Salpêtrière, passait un soir devant la morgue et voit de la lumière. Et des infirmiers malins avaient pratiqué dans la vitre blanchie au blanc d'Espagne un petit passage de façon à voir ce qui se passait à l'extérieur, si des fois quelqu'un venait ou s'il voyait une lumière. Et ce qui se passe, c'est que le médecin-chef, lui, quand il a vu aussi, il a vu la petite lumière qui venait de la morgue. Il a regardé par le petit trou ce qui s'y passait et il a vu deux infirmiers qui discutaient autour du mort. Le mort dont la mentonnière avait cédé, donc ce qui fait qu'il avait la bouche grande ouverte qui servait de cendrier aux deux infirmiers qui discutaient gentiment autour du mort.
Voilà, c'est aussi un des aspects de votre livre. Tout à fait. On y rit, mais on y est aussi parfois choqué, cette réalité de l'asile psychiatrique dans les années 70. Merci une fois de plus à vous deux, Guy Morcelli, Michel Abraham, d'être venus dans l'émission Wagon Livre. Rendez-vous mercredi prochain à 21h pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Je vous proposerai un entretien avec l'écrivain Xavier Bazot, qui était en résidence à Vézelay, à la maison Jules Roy, en juillet dernier. Xavier Bazot a publié aux éditions du Serpent à Plumes. Il y sera question de son dernier roman, Qu'en volant, paru aux éditions Champvallon. Un roman qui nous guide auprès des manouches ou des gens du cirque, auprès de celles et ceux qui ont choisi de ne pas se poser. Retenez donc bien ce rendez-vous, mercredi prochain à 21h sur Radion, c'est Wagon Libre, l'émission littéraire de votre radio locale. Excellente fin de soirée, bonne nuit, à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Au revoir à toutes et à tous.
Thank you.